vais le lire d'ailleurs.
Ça va commencer, hein, les enfants.
Oui, on est bon.
Ah, attends.
On est bon ? Bonjour, voilà, on se retrouve sur les ondes de Radio Galère à Marseille au 88.4 et aussi sur Internet et sur le DAB, ça, vous savez tout ça, pour une nouvelle émission. Dis-moi, un problème ? Non ? Ça va ? Ok.
Le micro.
Je suis tout prêt. Ça va ? C'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça. Non ? Est-ce que ça te va, Camille, à cette distance ? On va faire comme si. Non ? Ah, il y a un truc. Récidive au secours. À nouveau. Non, le générique a commencé puis il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe ? Je reprends ? Alors on fait comme si c'était le vrai départ. Bonjour ! On se retrouve donc pour ce rendez-vous hebdomadaire des carnets de Comaguerre pour faire le point sur la situation internationale en compagnie de mes complices habituels, donc Eric, Habib, Roselyne, que je remercie pour leur présence, et puis avec l'appui technique décisif de Yamine et de Sidi, je ne sais pas, il y a toute l'équipe là, qui est de l'autre côté de la vitre, pour mettre au point la qualité sonore de cette émission. Alors ça va être une émission un peu particulière, puisqu'on va consacrer une bonne partie du temps de l'émission à une interview par téléphone d'une citoyenne binationale française et syrienne qui est en ce moment à Paris pour un certain temps et qui a cet avantage d'une part bon, d'être des deux côtés de la barrière et qui en même temps fait des vidéos sur un site dont je vous donne le nom tout de suite, je le rappellerai, qui s'appelle Sitrep, S-I-T-R-E-P, qui est donc édité par un site internet qui s'appelle le Cercle des Volontaires. Et en gros, elle fait une vidéo d'à peu près une heure tous les mois, où elle fait donc un balayage complet de l'actualité syrienne, avec toutes les sources qu'elle peut lire, puisqu'évidemment, elle est arabophone, elle est anglophone, elle sait ce qu'il faut dire, enfin, ce qu'il y a à dire d'important. Et elle a donc, depuis pas mal d'années, puisque je crois qu'elle en est à la 120e chronique sur ce réseau Sitrep, elle a donc tenu très à jour l'actualité et elle pourra nous en parler. Donc on va la voir, on appelle, on va la voir donc en ligne, on va passer un moment avec elle pour d'abord l'écouter pour qu'elle nous explique ce qu'elle fait, en particulier comment elle en est arrivée à ce type de travail, quel est son rôle et quelle activité professionnelle elle avait en Syrie et en France, puisque ça allait ensemble, et puis lui demander le point de la situation. Et bien sûr, on lui posera ensuite nous quelques questions, puisque bien qu'on ait nous aussi notre envoyé spécial de Comaguerre qui s'appelle Habib, qui est à mes côtés, qui est allé, donc, je le rappelle, en Syrie au mois d'août 2011, il est intéressant aussi d'avoir un autre témoignage d'une citoyenne franco-syrienne, comme toi d'ailleurs, de la double nationalité, qui connaît bien la France et qui est spécialisée, je le dis avant qu'on l'ait en ligne, si on l'a encore appelé, mais qui est spécialisée dans les échanges de scientifiques, elle est chimiste elle-même de formation, dans les échanges de scientifiques, comme Habib d'ailleurs, entre les deux pays, même au-delà, puisque ça peut... Enfin, l'intérêt, c'est que pour la politique du gouvernement syrien, c'est un appui, même si ce n'est pas un appui officiel, son association, mais c'est un appui, puisque de longtemps, ça, Habib va nous le confirmer, le gouvernement syrien a eu le souci de faire former ses meilleurs étudiants dans les meilleurs sites universités étrangères pour qu'au retour du pays, ils assurent un développement technique et scientifique satisfaisant pour ce pays-là. Ça, c'est une vraie politique avec des soutiens financiers, des études qui étaient même gratuites, des bourses très, très importantes. Donc, elle, à sa façon, elle contribue à cette tâche-là d'élever le niveau scientifique et technique de la population syrienne pour qu'elle tienne, ce pays tienne sa place dans le monde contemporain. Donc on ne peut que ça lui ça. Alors, je ne sais pas si on l'a en ligne maintenant. Ça y est ?
Je suis là.
Alain, bonjour. Bonjour Aïssa. Merci d'être bonjour. Avec nous en ligne. J'ai présenté...
Bonjour Bernard.
Oui. Voilà, je suis avec mes amis, donc Roselyne, Eric et Habib, donc, qui est lui aussi double citoyen franco-syrien
oui.
et qui est président d'une association mm-hmm. française de solidarité avec la Syrie et qui habite mm-hmm. et qui est logé à Marseille.
Voilà. Et tous. Voilà. Oui.
Et qui se trouve avoir fait son dernier voyage en Syrie dans le cadre mm-hmm. d'aide humanitaire au mois d'août de l'année 2011. Pendant lesquels il a rencontré sur place, en particulier, puisqu'il va pour apporter soit des dons en argent, soit des dons en matériel, principalement mmh. dans des institutions où se trouvent des martyrs, donc des soldats, qui ont été, qui a perdu une jambe, qui a perdu un œil, enfin toute la misère, ou des veuves, mmh. ou des veuves de soldats. Donc ça, c'est nos sources d'informations. Et l'orphelinat, c'est nos sources d'informations mmh. sur la Syrie. Mais nous savons que toi-même, tu as beaucoup, beaucoup de sources d'informations. Et on va t'écouter, je voudrais qu'on commence peut-être que tu nous présentes l'association que tu as fondée pour montrer mm-hmm. son rôle dans Nostia. Qu'est-ce que Nostia mm-hmm.
Alors Nostia, c'est le réseau des scientifiques syriens expatriés. Et en fait, elle a été fondée déjà en 2000. En fait, l'objectif de cette association, c'est de pouvoir profiter de l'expérience et puis de des expériences différentes, je dirais, des expatriés syriens dans tous les pays du monde, et surtout de leur niveau d'expertise pour pouvoir avancer, assurer le décollage technique et technologique et scientifique en Syrie, mais aussi assurer aussi un véritable échange au niveau des idées et au niveau des idées scientifiques et des réalisations scientifiques. Bon, ça a été fondé en 2000 et en 2001, pardon. Et puis, enfin, l'Assemblée constituante a été en 2001. Et puis, pendant ce temps, donc, nous avons réalisé un certain nombre de conférences internationales scientifiques sur l'informatique, les différents rôles de l'informatisation, les différents domaines qui sont touchés par l'informatique. Aujourd'hui, ça paraît plutôt classique parce que l'informatique touche tout dans notre vie et on l'a vécu en l'an 2000-2001. C'était les tout débuts aussi en France, donc de l'informatisation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai aussi fondé une association qui s'appelle les descendants d'Ishtar. Ishtar est une déesse syrienne. D'il y a 10 000 ans, vous savez que la civilisation syrienne, elle existe depuis le début des temps. La Syrie est le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations, c'est le berceau du premier alphabet, de la première note de musique, des premières agricultures, parce que c'est mm-hmm. la Syrie qui a appris au monde la culture du blé. Donc, on voit tout ça. Tout ça se trouve sur des pièces archéologiques de terre cuite ou dans les différents sites en Syrie qui s'étalent donc depuis Hasaké et depuis le nord, le nord-est, etc. D'ailleurs, depuis les pays entre les deux grandes rivières qu'on appelle la Mésopotamie, en fait, qui était l'Irak, entre les deux rivières, le Tigre et l'Euphrate, jusqu'à la Méditerranée. Donc, tous les monuments et les vestiges de ces civilisations qui sont là partout en Syrie et en Irak et aussi en Jordanie, en Palestine. Je voudrais rappeler aussi que la Jordanie et la Palestine étaient des parties de la Syrie, et le Liban, partie intégrante de la Syrie historique, en fait, qui a été divisée par les Français et les Britanniques au lendemain de la défaite après la Première Guerre mondiale de l'Empire ottoman qui dominait en fait cette région. Donc voilà, ça c'est aussi le point.
Rappeler, donc la très grande Syrie.
Voilà. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mm. Alors, Voilà, oui, donc, mais je voudrais dire vas-y. Aussi que moi, je suis en Syrie depuis 2013. En fait, j'ai toujours habité en France. En fait, je veux dire, je suis en France depuis 50 ans. Mais en fait, quand la Syrie était en danger en 2012-2013, j'ai commencé en 2011 déjà. J'ai commencé à partir en Syrie, à passer un mois tous les deux mois pour savoir ce qu'il en était. Et très vite, j'ai découvert la taille des mensonges médiatiques, la taille, l'ampleur d'une volonté, je dirais, d'un plan de casse de la Syrie qui était un plan, en fait, de destruction systématique mené par des mercenaires qui ont été envoyés de quelque chose comme 103 pays, 104 pays différents. Et donc, ce sont des mercenaires qui ont été recrutés, financés et entraînés et dirigés par les forces politiques, je dirais, et les forces des renseignements et des armées des pays de l'OTAN, des États-Unis, l'OTAN, l'objectif étant de détruire la Syrie complètement.
Donc ça, c'est depuis 2013, et depuis, donc, tu suis très régulièrement, avec tes voyages systématiques sur le pays, l'évolution de la situation. Est-ce que tu peux nous brosser très rapidement un tableau de cette évolution ?
Oui, alors, depuis 2013, alors, je voulais vous dire 2013, hein, pourquoi 2013 ? Parce que moi, j'étais en Syrie cette période-là, oui. Et en août 2013, Obama a décidé de bombarder Damas. Ce jour-là, moi, j'avais mon billet d'avion de retour en France. Oui. Et là, j'ai décidé de rester en Syrie auprès de mon peuple. J'ai déchiré mon billet. Et donc, je suis restée et il y a eu un mouvement spontané, très important, de très grande ampleur, pour former un bouclier humain pour protéger Damas. Donc, nous sommes montés tous, des personnes de tous âges, en fait, vraiment des milliers de personnes, sur la montagne Qassioun, qui surplombe Damas. Et nous sommes restés là une semaine, nuit et jour, avec des chants populaires, des chants patriotiques, des chants de résistance, et la présence des drapeaux syriens, bien sûr, les télés syriennes sont arrivées aussi très vite, etc. Je peux dire que pour moi, c'était la plus belle décision et les plus belles journées de ma vie, étant autant la mobilisation était forte, émouvante et fantastique. Alors ça, c'était une véritable réponse, je dirais, à ceux qui disaient que de toute façon, le peuple syrien était contre son dirigeant, et le dirigeant qui tue son peuple, hein, ça a été une très grande démonstration de solidarité, d'amour de la patrie et de loyauté à ce président qui a pendant 11 ans, maintenant jusqu'à présent, qui a organisé la résistance et qui a sauvegardé la souveraineté du pays, avec des décisions très importantes, non seulement de résistance, mais aussi de liens, qu'il a tissé des liens politiques avec des grands alliés qui nous ont permis aussi de remonter et de résister, parce que j'aime autant vous dire que pour faire face aux forces américaines et les forces de l'OTAN, avec des terroristes qui viennent de partout, avec la complicité de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar, de la Turquie, avec laquelle nous avons un millier à peu près de kilomètres de frontières. Tous ces terroristes ont filtré en Syrie par les frontières turques, hein, et ils ont commencé non seulement à sévir, à commettre des exactions contre la population, mais aussi et surtout des destructions systématiques de l'infrastructure du pays, allant depuis les trains, depuis jusqu'aux les centrales de production d'eau, les centrales de production d'électricité, les circuits de distribution, des destructions des silos de grains, des destructions des chemins de fer, même les voies ferrées ont été arrachées, ajouté au fait qu'il y a eu aussi des attaques, non seulement contre l'armée, mais contre tous les postes de résistance dans le sud du pays, donc aux frontières avec l'État fantoche d'Israël. Tous les postes de résistance ont été détruits, défaits par ces soi-disant révolutionnaires. Je voudrais vous dire qui étaient, s'il vous plaît, qualifiés par les médias occidentaux de révolutionnaires de la démocratie, de défenseurs de la démocratie et de la paix. Et c'était tous des agents qui travaillaient pour les Américains et pour les forces impérialistes et pour surtout casser l'indépendance de la Syrie et favoriser la domination d'Israël sur le sud de la Syrie et sur le Liban. Et surtout, donc, pour cela, c'était une volonté réelle de détruire, de leur part, de détruire tous les postes de résistance et tous les équipements, je dirais, militaires de résistance et de défense du pays, en fait, de défense de la patrie. Donc, face à cela, bien sûr, la population syrienne s'est mobilisée et s'est regroupée autour de son armée, puisque au début, il y a eu aussi une véritable campagne de diabolisation de l'armée, de l'État, par les médias occidentaux, les médias mainstream, en fait, je peux dire, les médias dominants. Et donc, vous vous rappelez certainement qu'on parlait, quand on parlait de Bachar al-Assad qui tue son peuple, de l'armée syrienne qui tue le peuple, qui tire des obus et des missiles contre le peuple, etc. Tout ça, ce sont des mensonges. Et d'ailleurs, il y a eu un grand metteur en scène, en fait, syrien, qui s'appelle Rafiq Lotov, qui a non seulement débusqué toutes ces manigances et tous ces mensonges. Et en fait, ces manigances, ils filmaient avec des décors qui ressemblent aux villes et qui ressemblent aux places des villes en Syrie. Et il faisait des agressions, etc. Mais c'était tout ça du fictif, du factice. Et ce film, je vous conseille d'ailleurs de le retrouver sur Internet et de le voir. Il s'appelle Veto. V-E-T-O, comme V-E-T-O. Les vitaux,
oui,
en fait.
Oui, oui. Hein.
Et ce film, donc, montre vraiment de manière claire, parce qu'il a pu rentrer dans les télévisions, dans les stations de télévision à partir de laquelle tous les médias mainstream prenaient les infos, mm-hmm. Et il a pu démontrer à quel point c'était faux et les mensonges réels, en fait, vous allez les voir. Donc, c'est un film que je vous conseille de voir pour voir l'ampleur du mensonge et de la manipulation médiatique qui a été menée par, je peux dire, quand même des groupes médiatiques importants,
parce que
ça ne pouvait pas être l'effet de petits amateurs.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, nous avons été victimes de toutes ces manipulations et machinations. En plus aussi, donc des terroristes qui sont transformés complètement en bêtes, en bêtes et en véritables monstres, qui coupaient les têtes, qui éventraient les gens, qui faisaient des horreurs, en fait, mais inimaginables, des gens qui étaient grillés sur des arbres, en fait, comme ça, suspendus et grillés. On a même vu, d'ailleurs, dans leurs propres vidéos, les vidéos qui étaient exposées par ces terroristes, hein, des gens quelqu'un qui avait ouvert la poitrine d'un soldat syrien, il a arraché son cœur et il l'a mangé cru. Devant les caméras, c'est les caméras des médias, de leurs médias, c'est eux qui ont fait ça. Et ils coupaient les têtes des gens, ils procédaient des exactions contre les femmes, les enfants, et tout ça pour semer la terreur, pour pousser les gens à l'exil, pousser les gens à partir de chez eux. Et surtout à ce qu'ils prennent peur et ils ne résistent pas. Donc, face à tout cela, heureusement, l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne a tenu bon. La population a été rassurée aussi par la présence et la résistance de notre président et de celle de l'armée. Ils se sont donc, ils les ont entourés et soutenus. Il y a eu des manifestations, mais alors, fantastiques, en Syrie, à Damas, en fait, des kilomètres et des kilomètres de manifestations de soutien au président Assad qui ont été traduites dans les médias occidentaux en disant, ça c'est l'inverse, et le drapeau syrien, qui est un drapeau composé de rouge, blanc et deux étoiles vertes et noires. Ils ont pris ce drapeau, il y avait des kilomètres de drapeau, hein. Ils ont pris ce drapeau avec un filtre qui transformait le rouge en vert et disaient ce sont des manifestations contre le président Assad. À quel point le mensonge était vraiment présent et il est toujours présent d'ailleurs. Oui. Ajouter aux mensonges concernant les massacres dans les villages, parce que les terroristes, justement, ils massacraient des villages entiers. Plus de 21 villages dans le nord de la Syrie ont été complètement décimés. Les gens, zéro personne il y a aujourd'hui, ils les ont carrément tués. Et ça, ils disent, ah oui, mais c'est Assad qui est en train de tuer son peuple, etc. Heureusement que les témoins sont là. Il y a eu des gens qui ont réussi à fuir de ça et là et qui ont raconté l'horreur et la peur. Et tout ça, ça a été mis sur le dos de l'État syrien, comme ça, par les médias occidentaux, pour attiser la haine des peuples occidentaux contre ce entre guillemets ce dictateur qu'ils appelaient le dictateur. Voilà, donc en réalité c'est un des présidents les plus aimés, je dirais, du monde, puisque il y a eu le premier défi, ça a été des élections, une nouvelle constitution qui a été faite en 2012, qui a été ratifiée par un référendum. Oui. Voilà. À 90%, 95%, le référendum était pour. Deuxièmement, il y a eu des élections présidentielles, des élections du Conseil de l'Assemblée constituante, je peux dire, du Parlement, Conseil du peuple, on l'appelle nous.
Oui.
Et donc, et tout ça, ça a montré la participation de la population, ça a montré à quel point la population est loyale au président, alors que ces élections ont été contestées par tous les pays européens, je voudrais vous dire. Qu'ici en France, on nous a interdit de voter pour notre président. On nous a interdit de voter tout court. Et puis, par contre, l'année dernière, comme il y a eu à nouveau des deuxièmes élections, au cours desquelles d'ailleurs notre président a été élu à 95% des voix. Donc, et là, ils n'ont pas pu, en France, ils n'ont pas pu nous empêcher, mais l'Allemagne et la Turquie ont interdit les élections syriennes là-bas. Ils ont interdit à la population syrienne de voter pour ces... Alors que je voudrais rire quand même, parce que les États occidentaux qui se pavanent de démocratie, de vote, de défense de la démocratie et des destinées des gens.
Alors, ce que tu dis donc du soutien du peuple syrien, et je repense à ce rassemblement autour de Damas au moment des bombardements, n'est pas passé inaperçu, non pas des Occidentaux qui étaient, dont on lavait le cerveau, mais d'un certain nombre de pays qui ont dit à partir de ce moment-là, on va les aider, parce qu'ils méritent de l'être et ils ont la force collective pour qu'on les aide. Parce que ça ne veut rien dire la Russie vient faire son jeu. Non, la Russie a, la Russie a été consciente qu'elle avait là une force politique réelle. Régime qui tenait debout et qui méritait d'être sauvé.
Absolument, absolument. Mais la Russie, alors j'aime autant dire là, la Russie, elle a attendu jusqu'en 2015.
15, oui, oui.
L'État syrien et le peuple syrien, l'armée syrienne, ont tenu seuls jusqu'en 2015.
Pendant 4 ans.
Bien sûr, il y avait bien sûr le soutien politique par les vétos. Des Chinois et des Russes qui bloquaient en fait les velléités de destruction des pays occidentaux parce que je rappelle quand même que la Libye elle a été quand même détruite par un vote justement malheureusement des Nations Unies qui avait donné la possibilité à l'OTAN d'aller bombarder en Libye. Bon, bien sûr, cette erreur n'a pas été n'a pas été reproduite pour la Syrie, donc c'est ce qui nous a sauvés. D'ailleurs, nous sommes très reconnaissants pour les pays qui ont fait le veto, donc la Chine et la Russie. Ça a été pour nous tout à fait salvateur parce que les volontés de casse de l'OTAN étaient vraiment manifeste et déterminé. Et c'est, je rappelle quand même, à plusieurs reprises, les États-Unis, depuis Bush, n'ont jamais arrêté de parler du nouveau Moyen-Orient. Et ce nouveau Moyen-Orient qui devait être sous leur égide, qui devait être refait, défait et refait, et cassé, et au profit de l'État fantoche d'Israël, qui est un État d'occupation, qui n'a aucune, non seulement aucune légitimité, mais il n'y a que de l'occupation. C'est un État qui s'est créé sur les cadavres des Palestiniens et sur des quantités de massacres et d'exodes en fait des Palestiniens sous prétexte que c'est leur pays promis, etc. Et en fait, il n'en est rien. Ce n'est pas du tout une question de religion. C'est une question politique. C'est un sionisme qui est un mouvement politique créé par les Américains, par les Occidentaux et qui vise effectivement à garder un pied effectivement de l'ensemble des pays colonisateurs de l'Orient dans le Moyen-Orient et qui permet aussi de casser l'ensemble, de casser l'éventuelle unité arabe ou une potentielle unité arabe. Et cette unité réelle qui s'étale entre la presqu'île arabe et le Golfe, les pays du Golfe et jusqu'à l'Atlantique, tous ces pays qui parlent la même langue, qui ont la même religion, qui ont les mêmes traditions et qui ont la même histoire, qui est l'histoire de l'arabité et de l'islam. Et de ce fait aussi, la Syrie a toujours été en fait un peu le cœur battant du nationalisme arabe. Et voilà, donc d'où la volonté de détruire la Syrie pour étouffer tout sentiment nationaliste arabe et tout sentiment de souveraineté des pays arabes dans l'œuf. Voilà.
Et dire que donc, les principales puissances arabes que l'Occident respecte, ce sont les Émirats, donc les non-démocraties couvertes d'argent, c'est ça, hein ?
Absolument. Et je voudrais rappeler quand même que Laurent Fabius est allé jusqu'à dire
ah là là.
L'Arabie saoudite est un pays démocratique qui respecte le droit des femmes.
Il a tout
alors
osé.
Alors que c'est un pays où on décapite les gens à longueur de journée. On décapite les gens pour avoir dit des choses contre le gouvernement, contre leur roi, contre les princes, etc. Et où il y a, en fait, c'est pas un pays, il n'a pas de constitution, il n'a pas de représentation, etc. C'est pas un pays, c'est en fait une famille qui détient toutes les richesses de ce pays et qui en fait ce qu'elle veut. Voilà.
Alors, je voulais te saluer parce que dans le temps, je me passe du côté des Français d'ici, dans le temps où toi, tu rentrais à Damas en 2013, beaucoup de gens partaient et qu'en plus, l'Occident a mis au point toute une série de perroquets sur les écrans, dans les télévisions, qui étaient destinés à vendre le message. Alors, des pseudo-intellectuels, alors je ne cite pas de noms parce qu'ils sont méprisables, mais il faut voir que l'opinion française a été travaillée pour qu'elle croie tous les mensonges. Et j'allais dire, parce que je le dis, parce que je le pense, les universitaires qui se sont prêtés à ce jeu-là se sont déshonorés.
Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ils ne sont pas seulement méprisables, mais ce sont des vrais traîtres.
Tout à fait.
Des vrais traîtres à leur pays, à leur patrie, qui continuent d'ailleurs à trahir et qui persistent et signent. Malheureusement qu'il y ait des gens comme ça, mais je sais que ça existe dans tous les pays. Hein. On sait bien, même en France, il y a eu des traîtres et des collabos. Et ceux-là en font partie. Et c'est vrai qu'ils sont tout à fait méprisables. Et ils continuent à être d'ailleurs les défenseurs des contre-vérités. D'ailleurs, une autre des contre-vérités que je voudrais quand même rappeler et qui est mâché et remâché jusqu'à aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à maintenant, c'est le fait que l'utilisation du chimique, des armes chimiques contre le peuple syrien par l'État syrien. Or, en fait, depuis 2013, où il y a eu effectivement un attentat aux armes chimiques qui a visé l'armée syrienne, qui a été menée par les terroristes, qui était Khan al-Assal du côté d'Alep, pour lequel tout de suite, d'abord, il y a eu des victimes de l'armée arabe syrienne et des victimes du peuple, effectivement. Et ça a été dans la ville de Khan al-Assal parce que la ville de Khan al-Assal, la veille, a fait des grandes manifestations de soutien et d'accueil à l'armée arabe syrienne. Donc, ils se sont vengés de cette ville et en tuant donc aussi des gens, des civils, mais aussi des soldats syriens. À ce moment-là, immédiatement, l'État syrien demande à l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour qu'elle vienne à Khan al-Assad. Et cette commission d'enquête n'est jamais venue à Khan al-Assad. Elle n'est jamais venue parce que c'était tellement flagrant, manifestement, que c'était leurs alliés terroristes qui avaient utilisé tout ça. Et donc, elle est venue, mais très tardivement, plus tard, à Douma. Je me demande si ce n'est pas en 2018, d'ailleurs.
Oui.
Et en fait, ils arrivent à Douma, à un moment où il y avait Douma qui se libérait, et ils disent « Ah, il y a eu un attentat aux armes chimiques à Douma. Donc on arrête tout et on va à Douma. On va enquêter à Douma. » C'était incroyable. Et l'État syrien a été toujours coopérateur avec l'OIAC, en fait, l'Organisation d'inhibition des armes chimiques. Et la Syrie elle s'est défaite de l'ensemble de son arsenal d'armes chimiques, d'ailleurs, qui a été donné à un navire américain qui l'avait détruit.
Oui.
Et donc ceci, en juin 2014, c'était terminé. il y avait, nous avons des rapports de l'ONU, de l'OIAC elle-même, qui disent que la Syrie est exempte de toute arme chimique et de tout arsenal chimique, et que c'est un navire américain qui les a reçus et qui a détruit tout en pleine mer, etc. Et malgré tout, il continue jusqu'à aujourd'hui et demain, oui, à parler de ce scénario, et il continue à dire que l'État syrien a utilisé les armes chimiques. Alors, c'est quand même important de voir, quand on voit des quantités de chefs d'État,
oui,
des États occidentaux, allant depuis Obama, Kerry, Laurent Fabius, Hollande, et tout un tas de tous les chefs d'État européens qui mentent, mordicus, devant les caméras, qui mentent dans toutes les instances internationales, qui cachent, qui, en fait, font des pressions pour que les rapports de cette commission soient transformés, manipulés, et à tel point que même les experts eux-mêmes ont dénoncé la manipulation de leurs rapports et ont démissionné, pour certains, ont démissionné, et ils ont dénoncé les pressions dont ils étaient victimes pour qu'ils changent leur ce qu'ils ont écrit, c'est quelque chose d'absolument affolant. Donc ça, c'est très important à ce que tout le monde se rende compte de ces manipulations et de toutes ces instances qui sont en fait en train de devenir dans les mains des pays dominateurs hégémoniques mondiaux. Ils étaient, en fait, ils sont devenus dans les mains des Américains, des Français, des Britanniques, etc. Et pour consacrer leur hégémonisme sur le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train, je dirais, le monde est en train de changer. Oui. Pourquoi ? Parce que la résistance de la Syrie a fait que le plan qui était prévu pour consacrer la domination des Américains et de ces forces hégémonistes occidentales sur le Grand Moyen-Orient,
oui,
et ben, le fait que ce plan ait échoué, ben, ça crée aussi un monde nouveau. Ça a été propice, d'une part, à l'émergence de la Russie comme force internationale, comme grand pays international, à l'émergence de l'Iran comme une grande force régionale, et surtout la présence de la Chine comme une nouvelle force internationale, amie des peuples, hein, et qui cherche à faire plutôt d'autres types de relations, à créer d'autres types de relations. Je voudrais rappeler là-dessus le grand projet de la ceinture, la route de la soie et la ceinture de la soie, et dont le principe fondateur, c'est nous serons bien si nos voisins sont bien et sont développés et sont souverains. Et donc le monde pourra se développer comme ça et être, si tous les pays sont forts, les pays sont dans la prospérité, dans le développement, dans l'entraide et surtout dans la souveraineté et le respect des uns et des autres. Donc, c'est un autre type de principe de relation,
exactement,
un autre type de relation qui est en train de se construire et sur lequel les Américains et les Occidentaux, qui ont toujours été dans la domination, dans l'hégémonisme, dans l'esclavagisme, qu'ils refusent. Ils sont désemparés, ils le refusent. Et là, donc, ils se battent pour que, en fait, effectivement, leur monde continue à rester. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau monde, nous sommes un nouveau monde qui émerge, Et on voit que les conflits sont très forts, sont attisés. Le dernier en date, là, celui du Kazakhstan, regardez, les terroristes ont envahi tout le pays du Kazakhstan. En une journée, toutes les villes ont été envahies. Le scénario ressemble exactement à celui de 2011 en Syrie.
Tout à fait.
Incroyable.
Tout à fait, on va en parler. Je voulais que tu nous dises, plus près de l'actualité immédiate, il y a le niveau militaire depuis donc, les interventions de la Russie et tout. On peut considérer qu'au niveau militaire, la guerre est presque gagnée. Mais il reste maintenant les sanctions, c'est-à-dire la mise à genoux de la population. Ça, c'est la dernière période.
Exactement. Alors, la Syrie a réussi à libérer 90% de son territoire. Voilà. De reprendre le contrôle. Et donc, toute cette partie est revenue à l'État syrien. Aujourd'hui, il y a le nord-est de la Syrie qui est du côté de Hasaké. Et c'est là où se trouvent aussi les richesses de la Syrie, c'est-à-dire là se trouve le gaz, le pétrole et une terre très fertile qui est le grenier de la Syrie. Donc ça, c'est à l'est de l'Euphrate. Voilà. De l'autre côté, à l'ouest de Idlib, à l'ouest d'Alep et au sud d'Alep, Idlib, cette ville aussi, ce gouvernorat d'Idlib qui est occupé par les terroristes qui sont soutenus par la Turquie, c'est une région qui est très fertile aussi en arbres fruitiers, en céréales, en tout ce qui a toutes les richesses. Alors, nous avons assisté effectivement à et puis il y a aussi une base américaine là qui a été posée à Altanf sur un triangle de route, une route rapide qui relie la Syrie à l'Irak et à la Jordanie. Altanf. À côté de là, il y a un camp qui est un camp de réfugiés. Oui. Qui est dominé par les terroristes aussi, Al-Rukba, et qui est dominé par les terroristes d'Al-Nusra. Donc, en fait, les terroristes d'Al-Nusra sévissent dans ce camp. Ils recrutent des gens qui se font entraîner dans la base américaine d'Al-Tanf et qui partent de là dans la badia syrienne et dans les campagnes syriennes et irakiennes. En haut, un peu plus haut, au-dessus, du côté donc de Hasaké et à l'est de l'Euphrate, là aussi, il y a Daesh. Les Américains ont créé Daesh et ils ont Daesh, c'est ISIS en fait, ou l'EIL. Et donc, ils les entraînent et ils les activent à chaque fois dont ils ont besoin. Ils pillent les richesses de pétrole syriennes. Ils pillent tout le pétrole syrien. En fait, la Syrie n'a pas une grande quantité de pétrole là, du côté de Hasaké et du côté d'El Jazeera, mais une quantité de pétrole qui permettait à la Syrie de vivre normalement, de subvenir à tous ses besoins et puis d'en exporter aussi un peu. Aujourd'hui, les Américains, ils piquent tous les pour 50 millions de dollars tous les jours du pétrole syrien et ils l'acheminent vers la Turquie et vers Erbil, en fait, le Kurdistan irakien. De la même manière, ils piquent le grain. Alors, avec leur allié qui s'appelle Qassad, FDS, les forces dites démocratiques, dites syriennes, qui n'ont rien ni de démocratique ni de syrien, qui sont des milices kurdes qui ne sont pas syriennes, des milices kurdes qui sont venues de Wadi Qandil, en fait, des montagnes turques, iraniennes, etc., et qui sont là et qui dirigent ce mouvement et qui tiennent tête donc à l'État syrien et qui commencent à parler de découpage de la Syrie. Ils veulent une zone, comment dire, une zone d'indépendance, là, ils ont. Donc, en réalité, tout ça, c'est jusqu'à présent dans les mains des Américains, donc des Turcs et des Américains qui se partagent les rôles, à vrai dire. Et puis, l'objectif, c'est d'en priver le peuple syrien. Donc, en fait, il faut voir un peu le panorama. À chaque fois qu'il y a des centrales de production électrique qui se refonctionnent, elles sont bombardées. Donc, pas d'électricité, pas d'eau, puisque souvent, l'eau aussi, les Turcs aussi assèchent l'eau du Frat. Ils ont mis je ne sais combien de... encore à nouveau, ils ferment les robinets du fleuve, parce que le fleuve prend naissance
en Turquie,
en Anatolie. Et donc là, les arrivées d'eau à la Adelzol sont pratiquement des petits ruisseaux maintenant. Et en plus, ajoutez au fait qu'ils ont brûlé, incendié les récoltes hein, l'année dernière, incendié les récoltes. Et les arbres fruitiers, tous les vergers de Syrie, ils ont été incendiés comme ça par des attaques terroristes avec des drones et du phosphore, s'il vous plaît.
Oui.
Donc l'objectif, c'est bel et bien d'affamer le peuple syrien, de le faire mourir de froid. Et même pire, récemment, les Américains, l'association tristement célèbre USAID, après avoir brûlé les récoltes à Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, ils viennent avec des sacs de blé.
De semences, oui.
De semences, et pour que les distribuer aux paysans. À l'analyse de ces sacs, on découvre que c'est du blé empoisonné et qui provoque dans la terre des parasites qui annihilent la terre, qui rendent la terre stérile pendant des années. Et donc, heureusement que l'État syrien et le ministre de l'Agriculture syrien s'est très vite alerté. Il a alerté l'ensemble des paysans de ne pas manger ce grain, de ne pas le semer, etc., etc. Et surtout, de le rejeter, parce que ce sont des grains qui provoquent la stérilisation de la terre, en plus d'empoisonner les gens, qui empoisonnent la terre et les gens. Les cadeaux américains, merci.
Voilà, on peut les qualifier de génocidaires, c'est-à-dire il s'agit de faire mourir de faim une population.
Complètement, c'est un génocide organisé, au su et au vu du monde entier, et tous les pays occidentaux, c'est-à-dire les Américains et leurs alliés, sont absolument complices dans ce génocide, complètement. Il faut dire quand même, je rappelle que la Syrie, en 2011, avait zéro dette.
En plus.
Complètement autosuffisante. Complètement autosuffisante. Elle mange ce qu'elle produit. Elle s'habille de ce qu'elle produit. La Syrie exportait des denrées alimentaires et même des médicaments vers 51 pays différents. Et tout le monde y mangeait à sa faim. Tout le monde, non seulement y mangeait à sa faim, tout le monde était bien nourri. Et avait sa maison, le pain de terre et tout. Alors, c'est important quand même de voir ça.
De le rappeler, tout à fait.
Et que, en plus, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important aussi à voir par rapport à ces... sanctions, entre guillemets, qui ne sont pas des sanctions, qui sont un véritable embargo génocidaire. En 2019, la Syrie a réussi à rembourser aussi les dettes de la guerre.
Oui.
Hein? Les dettes de la guerre qu'elle a subies entre 2011 et 2019. Elle avait tout remboursé. Et c'est là que l'embargo est reparti, pour étouffer la Syrie. Aujourd'hui, le peuple syrien continue à construire. Aujourd'hui, le peuple syrien aussi arrive à faire avec de l'électricité avec le soleil et de l'électricité avec le vent. Et on continue aussi à essayer de développer nos capacités de raffinage du pétrole. Mais franchement, il est temps que les Américains partent. Et il est important de voir aujourd'hui que le mouvement populaire de la région d'Al Jazeera, en fait, Al Jazeera et Sourie, qui est donc l'est de l'Euphrate, le mouvement de protestation populaire, il prend de plus en plus d'envergure. Il y a tous les jours aujourd'hui des attaques contre les Américains et contre Fassad, etc. Donc, ils ne feront pas long feu et que, de toute manière, ils seront obligés de partir, de déguerpir même. Voilà.
Et c'est ce que nous attendons tous.
Hein. Absolument.
Après cette épreuve redoutable, mais qui, effectivement, tu l'as dit, redessine cette partie du monde.
Tout à fait.
Puisqu'on a l'axe de la résistance s'est formé, il a vaincu militairement, il s'est élargi au Yémen. Et donc,
exactement.
On a un nouveau panorama qui se crée sous nos yeux. Ce qui fait mal, c'est qu'il se fait sur le sang des Syriens.
Voilà, tout à fait. Et il s'est renforcé aussi. Donc aujourd'hui, le front de la résistance est plus fort que qu'il n'a jamais été. Et ça, c'est quelque chose de très important à voir et qui donne confiance et qui donne espoir dans l'avenir à tous les peuples, je peux dire. Il y a aussi un rapprochement évident avec nos amis du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba, qui souffrent aussi depuis des années de l'embargo américain. Donc là aussi, en fait, ces forces qui sont contre l'hégémonie américaine et occidentale dans le monde, ben, elles progressent, elles tissent des liens de plus en plus forts. Et la présence de la Chine et de la Russie, qui a repris quand même le dessus, est très importante pour nous, pour toutes les forces des peuples. Anti-hégémonique, et puis la présence de la Chine, la présence... Et il y a quand même des relations dans le cadre de la communauté économique de Shanghai, dans le cadre... Il y a des choses qui se passent, qui sont, je dirais, en profondeur, et ça, c'est très, très bien dans le sens de ce nouveau monde naissant. Il y a des nouvelles bases qui sont assises à nouveau, notamment pouvoir échanger avec la monnaie locale de chacun des pays.
Bien sûr.
Donc pouvoir se passer, du dollar.
Du dollar.
Et c'est donc se défaire de cet hégémonisme des Américains.
Voilà donc un programme auquel on adhère tous, évidemment.
Oui.
Bon, oui. La Russie, pourquoi elle est pas
voilà,
plus...
alors, oui, ouais. C'est Habib qui pose la question, qui dit, en fait, quand il est allé cet été, il a eu l'impression, comme ça, en circulant dans la rue, en prenant les autocars et tout, que la population syrienne disait, elle avait l'impression que la Russie ne faisait pas assez. Alors, qu'est-ce que tu peux faire comme appréciation sur ce ressenti?
Parce que comment il s'appelle, le truc de la Turquie, en un mois, il a été bombardé deux fois. Et il y a un silence autour de ça et on ne voit pas pour quelle raison. Alors la population syrienne, la plupart, parce que j'ai pris beaucoup de transports en commun, je les ai entendus parler, mais que fait la Russie ? Puisqu'Israël nous bombarde et puis il n'y a aucune réponse à ça. Même pas dire, comme par exemple au Kazakhstan, l'intervention russe a été très rapide. Du côté de l'Ukraine, tout de suite, l'armée russe a été rapide. Elle s'est mise sur le frontière, puis etc., etc. Bon, je me pose la question. Bon, moi, j'ai toujours confiance en la Russie. C'est pas, je sais que... Mais on ne peut pas créer une guerre...
Alors, je pense que c'est important quand même de voir. La Syrie tient à ce que ce soit elle qui défend son territoire, d'une part, vis-à-vis de l'État d'Israël. Parce que la Russie est notre allié dans la lutte contre le terrorisme.
Oui.
Et Israël est plutôt un État avec lequel la Russie a des rapports importants, disons. Mais il est certain que le fait que que Israël bombarde de temps en temps, etc., ça fait partie des choses qui sont... c'est les réactions hostiles et d'agression israélienne auxquelles, effectivement, la Syrie a été habituée. Et elle riposte, d'ailleurs, il ne faut pas croire qu'elle ne riposte pas, elle riposte, mais elle ne fait pas beaucoup de publicité autour. C'est l'ensemble de l'axe de la résistance ou du front de résistance fait des réponses et des ripostes un peu partout, d'ailleurs, à Israël. Je peux dire quand même qu'il y a eu des parties du port de Haïfa qui ont brûlé, il y a eu des usines qui ont brûlé aussi en Israël, etc. Ce sont des choses qui se font. Effectivement, je pense que la Russie ne riposte pas parce que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Elle est notre alliée pour la lutte contre le terrorisme. Et elle donne par contre à l'État syrien et à l'armée arabe syrienne tous les moyens pour riposter et pour protéger son ciel. Donc on a les S-300, on a des experts russes, etc. En fait, c'est vrai que c'est pas le rôle de la Russie. Mais je crois aussi sont un peu, ils ont toujours envie que la Russie, moi je ne voudrais pas que la Russie intervienne à notre place chez nous. Voilà. C'est une question de respect de la souveraineté de la Syrie.
Tout à fait.
Absolument. Et donc pour moi, c'est très important de voir ça. Et bien sûr, le peuple, il voudrait quand même que les amis interviennent, etc. Mais on a des amis qui interviennent. Les amis qui interviennent sont les amis de l'axe de la résistance. Ce sont les amis de Hezbollah, ce sont les amis des Iraniens, ce sont les amis des forces populaires syriennes, etc. Donc, il y en a. El-Hashd al-Sha'bi aussi.
Oui, en Irak.
C'est ça, en Irak. Donc ça, ce sont des amis qui interviennent, effectivement. Et nous sommes dans le cadre... d'un front de la résistance qui n'est pas tout à fait le cadre qui nous lie à la Russie. Donc, c'est important. Un autre point quand même duquel il faut se méfier, c'est que toutes les forces étrangères, américaines, etc., et toutes les forces d'ailleurs Arabie Saoudite et compagnie qui veulent semer la discorde, ils cherchent à toujours une faille par laquelle intervenir pour semer la discorde et semer la mésentente dans l'axe dans cette alliance antiterroriste qui lie la Syrie à la Russie. Donc, ils agitent aussi beaucoup de choses et je voudrais dire à ce niveau que les réseaux sociaux, Facebook, etc., jouent un rôle fantastique, comme ça a été le cas dans la création du trouble, comme ça a été le cas au début, au démarrage. Exactement. Donc, c'est important de se méfier de ça.
Tout à fait. On va devoir te laisser, parce que c'était passionnant, on aurait bien aimé continuer, mais on sait qu'on te retrouve facilement par téléphone, en attendant de t'accueillir ici. Grand merci. Et puis, je signale aux auditeurs, donc sur le site CITREP, ils peuvent écouter tes chroniques mensuelles sur la situation avec tout le détail de toutes les informations dont tu disposes.
Merci beaucoup, Bernard. En fait, je fais une chronique tous les 15 jours.
Aux 15 jours, pardon.
Voilà. Et en fait, cette semaine, parce que j'étais atteinte de corona, je ne l'ai pas fait et je le ferai demain.
D'accord. Bon, on l'écoutera avec grand plaisir. Merci encore, Aïssa. À très bientôt.
À très bientôt. Merci. Et bonjour à tous les auditeurs et bonne année à tous.
Merci beaucoup à toi aussi. Voilà, je ne sais pas s'il nous reste une minute. Bon. Alors, mais je n'ai pas le temps de le lire. Je le lirai la semaine prochaine. Elle a été allée à l'initiative d'un appel de 137 femmes franco-syriennes qui, l'année dernière, a dit que le peuple avait faim, le peuple avait soif, le peuple en avait assez de ce qu'on lui faisait subir. Et relatant, donc, ça a été signé donc, par quantité donc, de citoyennes, il y en a sur le territoire français. Et je le signale parce que ça fait équilibre entre les propagandistes à la solde des gouvernements occidentaux, dont on ne voit qu'eux sur les télévisions, dans les radios officielles et tout. Il y a aussi ça. Les citoyens avec la double nationalité qui se battent comme Habib l'a fait ici et comme nous l'avons fait à ses côtés autant qu'on a pu. Voilà. On a une autre abondante chronique internationale qui reviendra la semaine prochaine. Simplement, je voulais dire un mot sur le Kazakhstan. C'est une organisation très, très soigneusement montée qui était destinée à faire tomber un régime. Mais la riposte immédiate dans le cadre d'un traité existant organisé par l'Arménie, le Kazakhstan, la Russie et le Bélarus a coupé court à cette tentative de déstabilisation d'un pays qui est très important du point de vue de la géopolitique. Mais j'en parlerai abondamment mardi prochain. Merci de votre attention. Merci, Amine.
Quand Bru Bru y reprend les amants de Saint-Jean, nous on fait l'adultère du Mont-Robert.